Sud Radio. Le grand show de l'info.
Cyril Brioulet.
Bonsoir, bienvenue dans le grand show de l'info sur Sud Radio. L'éducation nationale va vérifier le passé des enseignants, le casier judiciaire des agents en lien avec des mineurs va être contrôlé. Conséquence de l'affaire de l'école de Villefontaine en Isère. Attention aux amalgames, préviennent les enseignants.
Attention à ce qu'il n'y ait pas une suspicion permanente. Au quotidien, l'école sauve des enfants, notamment quand les enseignants signalent des cas de maltraitance ou d'enfants en danger. C'est un point très important qui montre aussi le rôle protecteur de l'école en fait, au quotidien auprès des enfants.
Steven Goyer, vous nous expliquerez comment vont se passer ces contrôles. Futur propriétaire, ça vous concerne, le prêt à taux zéro va être élargi et simplifié. René Germa, bonsoir.
Bonsoir Cyril Brioulet.
C'est dans le neuf, dans l'ancien ?
Oui, c'est dans l'ancien, c'est pour ça, hein. On a cru tout d'abord que c'était pour tous les PTZ, les prêts à taux zéro. Finalement, ça n'est que dans l'ancien. Pas mal de mesures, mais pas très convaincantes.
On y reviendra tout à l'heure. Les impôts vont baisser, c'est ce qu'on nous a dit, sauf pour la taxe foncière sur les terrains constructibles. Elle explose cette année jusqu'à 100 fois plus, on en parlera tout à l'heure. Yolaine Delabigne nous rejoindra tout à l'heure pour un monde plus vert. Nous écouterons aussi vos commentaires sur l'info. Nous recevons aujourd'hui Mohamed Bajrafil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine, linguiste, et vous publiez aujourd'hui Islam de France, l'an 1 aux éditions Plein Jour. Vous avez voulu à la fois expliquer et défendre l'islam auprès des musulmans et des non-musulmans.
Oui, c'est bien ça. Une entreprise, ma foi, difficile, mais qui, de mon point de vue, s'imposait dans la mesure où le bateau commun qui est le nôtre, qui s'appelle la France, a besoin, de mon point de vue, que l'on fasse ce travail.
Expliquer ce qu'est l'islam, le défendre aussi peut-être contre les amalgames qu'il y a eu au début de l'année, en particulier en France ?
Oui, alors c'est un message qui est adressé à la fois aux musulmans et aux non-musulmans. Aux musulmans pour essayer de leur expliquer ce que je pense être l'islam, étant entendu que chacun se doit de dire ce qu'il a à dire par rapport à ce dont il est convaincu. Et ensuite à l'adresse de nos concitoyens qui ne sont pas de confession musulmane, qui ont été ahuris très choqués par les actes barbares qu'ils voient au quotidien à travers les chaînes de télévision du monde, s'agissant de décapitation ou d'immolation. C'est des choses qui interrogent, qui interpellent, parce qu'elles sont faites au nom de la religion qui est la nôtre, qui est la mienne en tout cas, et qui est celle de beaucoup de Français de confession musulmane.
On a une heure pour en parler ensemble. Mohamed Bajrafil est dans le grand show de l'info. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Le grand show de l'info.
Le grand show de l'info, nous sommes aujourd'hui avec Mohamed Bajrafil pour le livre Islam de France, l'an 1 aux éditions Plein Jour. Vous êtes imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Un drame a frappé le pèlerinage de la Mecque aujourd'hui. 717 morts, plus de 800 blessés dans une bousculade. Le bilan est bien sûr encore provisoire. Le bilan est évidemment dramatique.
Oui, c'est dramatique. Vous savez que quand, dans quelques situations que ce soit, une vie humaine est perdue, c'est, comme dit le Coran, comme si l'humanité tout entière avait été décimée, et si on arrive à en sauver une, c'est comme si on avait sauvé toute l'humanité. Donc c'est d'autant plus déplorable que le nombre des victimes est très important.
Comment on peut expliquer un bilan aussi lourd, plus de 700 morts ?
Alors, alors qu'il est, je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour pouvoir me prononcer. Il est vrai que dans les années précédentes, on a pu déplorer quelques insuffisances dans tel ou tel domaine qui ont pu conduire à des catastrophes qui étaient évitables. Mais comme le dit si bien Cioran, on tire la plupart de nos réussites de nos échecs.
Donc, un ministre saoudien parle du manque de discipline des pèlerins, peut-être, pour expliquer la bousculade.
Manque de discipline des pèlerins, cela veut dire aussi qu'il y a un manque de discipline de la part de ceux qui organisent aussi. Donc je pense que c'est trop facile de se dédouaner aussi rapidement. C'est clair que si un drame pareil a frappé, il y a eu des manquements de part et d'autre. Et si ces derniers, comme semble le dire le ministre, ont manqué de discipline, c'est aussi parce que on n'a pas fait tout pour que justement ce manque-là n'ait pas lieu.
Le pèlerinage de la Mecque, c'est un des cinq piliers de l'islam.
Oui, alors c'est un des cinq piliers de l'islam, et c'est un pilier qui est transreligieux dans la mesure où ce pilier qui est composé essentiellement de deux types d'actes, ce qu'on appelle les piliers et ce qu'on appelle les obligations. Pour ce qui est de ces piliers, qui sont au nombre de 5, rien n'appartient à l'islam en tant que religion qui a commencé avec le prophète Mohammed, mais au contraire, un rite qui repose à 100% sur la vie du patriarche Abraham. Donc c'est un pilier qui est d'autant plus important qu'il est transreligieux de son point de vue. Et je tiendrai à faire remarquer que les Juifs hier et aujourd'hui les musulmans ont des fêtes qui sont très importantes aussi bien pour les uns que pour les autres qui se suivent.
Ouais, et qui débutent en ce moment, effectivement. Mohamed Bajrafil est dans le grand show de l'info. Votre livre s'appelle « Islam de France, l'an 1 aux éditions plein jour ». L'affaire de l'école de Villefontaine a servi d'électrochoc. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de contrôler les casiers judiciaires de tous ses agents en contact avec des mineurs, enfants et adolescents. Un décret va être prochainement publié. Gaëlle est une maman et elle a mis en garde très jeune ses enfants.
Moi, je suis peut-être complètement folle, mais j'ai toujours dit à mes enfants de faire très attention à tous les adultes qui étaient autour d'eux. De toujours se méfier, de jamais se laisser toucher les fesses. S'il y avait un truc qui les dérangeait, de surtout m'en parler immédiatement. Et c'est vrai que j'avais un père qui était médecin qui m'avait toujours dit les pédophiles, c'est toujours autour des enfants. Ça s'arrange toujours pour travailler dans des écoles, dans des crèches, dans des garderies. Voilà, c'est toujours autour des enfants. Ça ne va pas travailler chez des vieux, ça ne va pas... J'ai toujours fait attention à ça parce que moi-même, mes parents m'avaient mis en garde. Parce que je trouve qu'une vie, après, elle est détruite par ces gens-là. Ils sont peut-être malades, il y a peut-être des tas de raisons qui expliquent leur comportement, mais les enfants, ils sont détruits après. Je trouve ça normal. Des gens qui sont en contact avec des enfants, ben, on fasse très attention.
Steven Goyer, bonsoir. Toutes les parties des attouchements et viols présumés à l'école de Villefontaine près de Grenoble pour généraliser ces contrôles.
Et tout à fait. Des affaires de pédophilie dans les établissements scolaires, il y en a eu plusieurs ces derniers mois, mais c'est bien le cas du directeur d'école de Villefontaine qui a déclenché l'envoi de cette circulaire. Pour rappel, ce directeur, toujours en cellule à l'heure actuelle, a été mis en examen fin février pour viol aggravé, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et acquisition et détention d'images pédopornographiques. 9 plaintes de parents d'élèves au départ pour des jeux d'éveil sordides imposés à ses élèves de CP. L'homme est aujourd'hui ciblé par 55 signalements d'attouchement et ce qui a choqué également, et ce qui a déclenché d'ailleurs l'envoi de cette circulaire, c'est que le directeur avait déjà été condamné en 2008 à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques, sans toutefois être suspendu ou inquiété par l'éducation nationale des dysfonctionnements dans l'institution qui forcément ne sont pas passés inaperçus.
Comment ça va se passer pour les enseignants ?
Alors pour l'instant, les modalités d'application, on ne les connaît pas encore, elles ne sont pas encore couchées sur papier, elles seront d'ailleurs discutées dans les semaines qui viennent avec les syndicats. Mais on sait tout de même plusieurs choses. Les enseignants ne sont pas les seuls concernés par cette vérification des casiers judiciaires. La mesure s'appliquera aux 900 000 personnels de l'État en contact direct avec les enfants. Le passé judiciaire sera donc passé au peigne fin et les procédures en cours seront elles aussi signalées. Et pour ce faire, un référent justice sera présent dans chaque académie pour éplucher justement les dossiers. Et du côté judiciaire, un magistrat deviendra lui référent éducation nationale auprès de chaque parquet.
Quelles sont les principales réactions, Steven ?
Alors du côté des parents d'élèves, la première chose qui revient aujourd'hui, c'est l'étonnement. Beaucoup pensaient que cette mesure existait déjà. Alors forcément, ceux qui confient leurs enfants aux enseignants et que j'ai pu rencontrer aujourd'hui sont unanimes. Ce genre de contrôle est nécessaire. Du côté des syndicats, on approuve aussi forcément la mesure pour la protection de l'enfance. Seulement, on espère aussi et surtout que la vie privée des enseignants ne sera pas jetée sur la place publique et que ces vérifications seront suffisamment encadrées pour protéger également les enseignants.
Et on en parle justement sur Sud Radio avec Christian Chevalier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général des enseignants du syndicat UNSA. Vous approuvez ces contrôles ?
Bah écoutez, bien évidemment, enfin, quand les parents confient leurs enfants à l'école, aux enseignants, c'est un rapport de confiance qui s'instaure. Et comme l'a dit d'ailleurs la maman qui a été interviewée tout à l'heure, ces actes-là sont inqualifiables et surtout source d'un traumatisme à vie. À vie pour les enfants qui ont subi ces actes, et puis pour leur famille, bien évidemment. Donc, ça n'est pas tolérable. Donc, que l'on mette en place des dispositifs pour que ça ne se reproduise plus est évidemment quelque chose d'absolument indispensable.
Évidemment, on se demande pourquoi ce n'est pas déjà le cas, pourquoi ces casiers judiciaires ne sont pas déjà régulièrement demandés.
Alors, je ne connais pas l'histoire de toute l'éducation nationale, mais visiblement, jusqu'à présent, l'éducation nationale... Alors, les casiers judiciaires étaient vérifiés à l'entrée en fonction. Bon, sauf que, j'allais dire, la carrière d'un enseignant aujourd'hui, c'est quasiment 40 années, et au cours de ces 40 années, il n'y avait pas de vérification des casiers judiciaires, et on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire de Villefontaine, c'est effectivement un défaut de transmission du dossier de la justice à l'éducation nationale, et un collègue qui a beaucoup brouillé les pistes, parce qu'il a eu des arrêts maladie, il a changé de département, etc., qui ont fait qu'au fond, on a perdu sa trace. Bon, et on n'a pas vu que ce collègue était à la fois en grande difficulté personnelle, évidemment, pour commettre ces actes-là, mais c'est surtout qu'il les a renouvelés.
Est-ce que vous en savez plus sur la marche à suivre pour les enseignants? Steven nous disait que ça reste assez flou pour l'instant. Chaque prof devra fournir son casier judiciaire à l'inspection d'académie.
Pour le moment, comme l'a dit très justement votre journaliste, le décret est paru. Le ministère avec lequel j'ai eu un contact dès ce matin m'a confirmé que les organisations syndicales seraient consultées pour voir comment on organise évidemment cette vérification. Bon, vous imaginez quand même que c'est une grosse opération, parce que si on doit vérifier l'ensemble des 900 000 fiches individuelles de casier judiciaire, ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Bon, donc là on va en discuter. J'avoue que moi, comme ça, brûle pour point, j'ai pas d'idée très très précise sur la méthode qui va être employée, mais en tout cas, enfin, ça n'a rien de choquant, et je pense que c'est là encore important que l'éducation nationale, mais plus largement tous les fonctionnaires en contact avec des enfants, soient irréprochables sur ces sujets-là.
Est-ce qu'il faudrait étendre cette mesure aux équipes qui encadrent les CLAE, les centres de loisirs, les centres aérés?
Alors c'est le cas, hein, puisque systématiquement, à tout renouvellement de contrat, les personnes qui encadrent les activités avec les jeunes sont, elles, contrairement aux enseignants, systématiquement vérifiées au niveau de leur casier judiciaire. Donc j'allais dire qu'on a évidemment moins de difficultés de ce côté-là, ce qui n'était pas le cas au niveau des enseignants, mais il ne faudrait pas tomber, par exemple, alors c'est ça peut-être le bémol, c'est-à-dire, alors d'une part, comme vous l'avez dit,
dans la
il faut faire attention à la confidentialité des informations, et moi je ne voudrais pas que l'on parte au fond d'un espèce de constat que tous les enseignants pourraient être des pédophiles en puissance, ce qui est quand même vraiment pas le cas. On était à la marge, évidemment une marge inacceptable au regard des dégâts psychologiques et traumatismes imposés à ces jeunes et à leurs familles, mais voilà, c'est cet élément-là auquel il faudra quand même porter une véritable attention.
Merci Christian Chevalier pour votre réaction sur Sud Radio. Mohamed Bajrafil, vous avez été enseignant en lycée, vous approuvez ces contrôles qui vont être mis en place?
Oui, je le suis toujours en lycée.
Vous enseignez toujours?
Oui, cette année je suis en disponibilité, mais je suis toujours enseignant, et je peux comprendre, et je comprends parfaitement et condamne ces actes qui détruisent la vie des plus faibles parmi nous, nos enfants, qui sont les hommes et les femmes de demain. Donc c'est normal que nous réagissions de la sorte. Ceci étant, rien ne sert de courir, comme dirait l'autre. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans des mesurettes qui ne seraient pas de nature à pouvoir prévenir les dangers, mais au contraire de prendre le temps de réfléchir sérieusement sur des mesures qui pourraient définitivement mettre un terme à ce genre de situation, sans pour autant...
Quelles mesures, par exemple?
Alors, personnellement, j'ai pas de mesure, parce que là, au pied levé, comme ça, je ne sais pas ce qui pourrait être envisagé, mais il ne faut surtout pas que nous perdions de vue l'idée qu'il n'y a rien de plus complexe que l'esprit humain, et que, pour des raisons personnelles, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent basculer, et alors c'est assez difficile d'en parler lorsque à chaud les événements se présentent. Ceci étant, il faut savoir raison garder et ne pas oublier que finalement le monstre que l'on découvre peut être le voisin, le frère ou le père que chacun de nous peut être. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas que nous livrions à la vindicte populaire ces gens qui font, enfin mes collègues ou nous qui sommes enseignants, qui faisons un travail qui depuis toujours a a été le plus beau des métiers, celui de la transmission des connaissances, sans quoi aucune société ne peut tenir. Livrer leur honneur en pâture comme ça, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, les mesures, oui, impérativement, parce qu'au regard de ce qui vient d'être dit, la vie de nombreux enfants, pour ce qui est de ce cas, semble avoir été détruite, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ceci étant, il faut surtout éviter de partir trop rapidement en besogne.
Oui, c'est le grand show de l'info sur Sud Radio. On va parler maintenant des mesures annoncées par François Hollande au congrès des bailleurs sociaux aujourd'hui à Montpellier. René Girma, vous allez nous aider à y voir plus clair. Les aides et les crédits sont maintenus.
Oui, alors ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que c'est un peu une session de rattrapage. François Hollande avait promis, vous vous souvenez, moi président, 500 000 logements par an, nous sommes à peine à 300 000. Alors, les premières annonces d'aujourd'hui concernent les logements sociaux. Une politique de préemption sera engagée, dit le président. L'objectif, c'est de contraindre les communes qui refusent de construire des logements sociaux. C'est l'État qui délivrera lui-même les permis de construire et qui réalisera même les logements nécessaires, a précisé François Hollande. Ensuite, nous avons des mesures pour les futurs propriétaires. François Hollande annonce une réforme du PTZ. Vous savez, le PTZ, c'est le prêt à taux zéro, pour aider ceux qui achètent un premier logement. Le PTZ sera élargi et simplifié. Mais on n'en saura pas plus pour l'instant, sauf que on croit apprendre à ce moment-là que le prêt à taux zéro, qui est réservé à l'acquisition de la première résidence principale, tout cela s'applique à tous les logements. Quelques minutes plus tard, le ministère du Logement précise qu'il s'agit du PTZ réservé à l'immobilier ancien avec des travaux, vous voyez.
Ah oui, donc a priori dans le neuf, ça ne marcherait pas.
C'est un peu plus restrictif. Bon, on va voir. Autre annonce, le maintien de l'APL accession. Alors, on connaît bien les APL pour les locataires. Vous savez, c'est ce complément de loyer qui vous est versé. Votre salaire n'est pas très élevé. Mais là, il s'agit de l'APL accession pour les ménages primo-accédants, souvent modestes aussi, qui empruntent, je vous donne un exemple, 130 000 euros sur 30 ans. L'APL accession représenterait une aide de 150 euros sur des mensualités qui iraient de 620 à 650 euros. C'est une moyenne. Un dispositif qui devait être fortement diminué. On l'a beaucoup craint. À partir du 1er janvier 2016, il reste donc en place.
Ça, c'est maintenu. Merci René. Le grand show de l'info revient dans quelques instants avec Mohamed Bajrafil, imam et auteur du livre Islam de France, l'an 1. A tout de suite, bonne fin de journée avec Sud Radio.
Sud Radio, Cyril Brioulet.
Le grand show de l'info.
La suite du grand show de l'info sur Sud Radio, toujours en compagnie aujourd'hui de Mohamed Bajrafil, imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine, auteur d'Islam de France, l'an 1 aux éditions Plein Jour. Vous le dites en introduction, le titre interroge et peut même susciter une certaine méfiance.
Oui, alors peut susciter de la méfiance, notamment de la part de personnes pensant que, à travers le vocable Islam de France, on cherche à proposer un islam qui serait édulcoré et qui serait vidé de ses valeurs pour, entre guillemets, se conformer à tel ou tel doxa ou à telle ou telle volonté politique. Or, le pari que j'ai tenté de relever dans ce livre est de montrer, au contraire, que justement, l'islam peut être de France comme il peut être de partout, et que de fait, l'islam ne s'est jamais opposé aux traditions des uns et des autres. Il s'est propagé dans le monde en un temps record parce que justement, il n'a pas, si je puis dire, une culture qu'il chercherait à imposer aux gens, mais c'est toujours marié avec les cultures des peuples qu'il a rencontrés au fil des siècles, aussi longtemps bien entendu que ces dernières ne menaçaient pas, comme je le dis dans le livre, les valeurs, ou plutôt les droits de l'homme les plus élémentaires, et ne remettaient pas non plus en cause la possibilité de croire, ou l'obligation pour celui qui est croyant de croire en un Dieu unique.
Oui. Une partie des Français pense que la France, c'est d'abord les racines chrétiennes. Pour vous, c'est du racisme? C'est une pensée du XXe siècle que de penser ça?
Je pense que c'est une définition très restrictive de la culture française. La France a une culture, une histoire qui est bien avant la naissance du christianisme. Et au fond, c'est de mon point de vue une façon dangereuse de définir l'humain. Parce que l'humain, comme le disait Rabelais, c'est toujours l'autre personne, l'autre monde. Et au fond, dire qu'on est de tel ou tel, c'est réduire la richesse qui est en chacun de nous quant à l'identité qui semble être unique, alors qu'elle est au fond très multiple. multiples. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis autant le produit des Lumières que des écrits de Gibran Khalil Gibran, de Léopold Sédar Senghor, de Faulkner et compagnie. Donc, au fond, aujourd'hui, dire que la France serait chrétienne, comme certains disent, qu'elle est judéo-chrétienne, des fois, je me dis, c'est avoir la mémoire très courte que de faire des déclarations pareilles quand on sait que la France a collaboré dans des années qui ne sont pas très glorieuses à la mise à mort de plusieurs milliers de juifs. Donc, vous voyez, c'est des définitions qui, de mon point de vue, relèvent souvent d'une maladie que moi j'appelle la nationalité aiguë.
Oui.
C'est que, en fait, on est convaincu d'avoir atteint l'être parfait qui serait tel ou tel. Donc, en gros, quand on dit que la France a des racines chrétiennes, c'est une belle déclaration, ma foi. Et d'ailleurs, moi, en tant que musulman, je peux même vous surprendre et vous dire que moi aussi, j'ai des origines chrétiennes dans la mesure où l'islam ne se veut pas comme un début, mais plutôt comme la suite du judaïsme et du christianisme. Donc, de ce point de vue-là, l'islam est beaucoup plus français que n'importe quelle autre religion. Mmh. Ceci dit, quand on sait ce qu'il peut y avoir derrière comme sous-entendu, eh bien, on ne peut qu'être interloqué par de telles déclarations.
Ouais. Le livre s'appelle « Islam de France, l'an 1 ». C'est votre livre, Mohamed Barjafil. On continuera à en parler tout à l'heure. On va parler maintenant des impôts sur Sud Radio. Les impôts doivent baisser, c'est ce que j'avais compris, vous aussi sans doute, sauf pour les impôts fonciers. La taxe foncière sur les terrains nus et constructibles a explosé cette année. Le Parisien aujourd'hui en France cite le cas de Michel qui habite le Val d'Oise. Elle payait 33 euros par an. Elle va devoir payer cette année 6 393 euros, vous avez bien entendu, et ça doit doubler dans deux ans. Alors ce n'est pas le cas partout, mais dans 28 zones dites tendues, en Ile-de-France bien sûr, et dans le sud autour de Bordeaux, Arcachon, Bayonne, Toulouse, Montpellier, Arles, Aix-Marseille ou Draguignan. Pour en parler, on accueille le délégué général des contribuables associés, Eudes Beaufreton. Bonsoir.
Bonsoir.
Une taxe multipliée par 10, 20 ou même 100, ça paraît incroyable.
Ah bah oui, 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 c'est tout bonnement incroyable, mais que voulez-vous, l'État cherche de l'argent partout. Évidemment, François Hollande, en faisant la promesse de ne pas augmenter les impôts, c'est bien évidemment garder de dire un mot sur les taxes, et les impôts ne sont pas des taxes, et les taxes ne sont pas des impôts. Voilà, donc il a joué sur les mots. Parallèlement, il y a une réduction des dotations globales de l'État envers les collectivités locales qui, aujourd'hui, cherchent à se refaire par tous les moyens possibles. Donc, les taxes locales sont un des moyens, mais il y en a d'autres encore, et ça va venir progressivement, que sont par exemple le stationnement des véhicules, puisque les municipalités vont chercher évidemment à se refaire où elles pourront.
Voilà, mais ça s'est repoussé à 2018. Mais en tout cas, pour les contribuables, ouais. c'est la douche froide. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous appellent ?
Ah ben de toute façon, ils sont excédés d'abord parce qu'il n'y a aucune lisibilité, parce que ce sont des gens qui sont déjà, on va dire, hyper taxés, en tous les cas, qui le prennent comme tel, tout simplement parce que leur pouvoir d'achat aujourd'hui diminue d'une manière naturelle. Je voudrais quand même rappeler qu'entre 2010 et les prévisions budgétaires 2015, l'État prévoit de prélever à peu près 25 milliards d'euros de plus d'impôts sur le revenu. Oui, on nous dit qu'on fait sortir quelques centaines de milliers de personnes ou millions de personnes des tranches les plus basses, mais parallèlement, ce sont quand même les autres qui payent. Ça, c'est une réalité, puisque de toute façon, comme vient de vous le dire, le montant de l'impôt sur le revenu a augmenté en 5 ans, de quasiment 27 milliards. La TVA a explosé, c'est-à-dire qu'elle est passée de 130 milliards ou 135 milliards à plus de 190 milliards. C'est l'objectif, donc le taux de TVA à 0,4%, donc entre les 19,6 et les 20%, c'est une réalité.
Oui, mais pour revenir
sur les sociétés, ce que je vais vous dire par là, si vous voulez, c'est que le reste à vivre qu'ont les gens, autrement dit, le pouvoir d'achat, ça me nuise. Et quand par-dessus, vous avez des impôts locaux qui explosent, ben, les gens ne peuvent tout simplement pas. Je veux dire, regardez le cas de cette dame dont vous avez une taxe foncière qui passe de 33 euros à 6 400 euros. Je veux dire, comment voulez-vous qu'elle ne fasse pas une crise cardiaque, quoi? Je veux dire, quelle est la notion de justice à l'intérieur de ça? Et parallèlement, on est dans un contexte quand même, je voudrais le dire, où aujourd'hui, avec la crise sanitaire presque qu'on connaît des migrants, ce qui est évidemment, je veux dire, l'accueil est très bien, etc. Mais je veux dire, comment voulez-vous que les gens comprennent que d'un seul coup on trouve des budgets, des logements, des fonds là d'un seul coup, quand de l'autre on est en train d'étrangler les gens. Je crois que les Français sont pas racistes, pour d'ailleurs un peu aller dans le sens de ce que disait votre intervenant précédent. Par contre, il y a un moment donné, je veux dire, quand vous étranglez la classe moyenne, qui est celle qui travaille le plus, eh bien, ça se passe mal, et je pense que ça va se passer de plus en plus mal.
Que vont faire ces propriétaires qui ne pourront pas payer, ne pourront pas tous payer en tout cas, eux de Beaufreton, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leur terrain? C'est la seule solution?
Dans un premier temps, je ferai une demande de dégrèvement et j'expliquerai qu'effectivement ils peuvent pas payer. Mais je veux dire, si la mesure est maintenue, il faut évidemment faire pression. Mais si la mesure est maintenue, deux solutions. Soit effectivement ils peuvent pas payer, ils demandent un échelonnement et ils l'ont. Soit il n'y a pas d'échelonnement et ils vendent et l'affaire est bouclée. Voilà, je veux dire. Mais ça, si vous voulez, c'est déjà ce qui se pratique. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans un certain nombre de cas de foyers fiscaux, alors évidemment sur des gens qui ont des patrimoines beaucoup plus élevés, il arrive qu'il y ait, dans certains cas, vous payez plus de 100% d'impôts de vos revenus. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vendre votre patrimoine pour payer vos impôts. Voilà. C'est parce que vos revenus annuels ne suffisent pas. Il y a des cas en France comme ça. Donc quand on disait qu'il y avait un bouclier fiscal à 75%, faux. C'est faux. Il y a des cas, et on a des cas ici chez Contribuables Associés, de gens qui nous disent que, et ils nous l'ont démontré, que le montant de leurs impôts était supérieur au montant de leurs revenus. Donc la seule solution, c'est effectivement de vendre ce qui constitue leur patrimoine, et que si on a des biens immobiliers, ce sont des biens immobiliers.
Merci Eudes Beaufreton, vous êtes le délégué général des contribuables associés. Je précise que le ministère des Finances relativise en disant que cette hausse avait été votée par le gouvernement de François Fillon, que le gouvernement de Manuel Valls a réaménagé la mesure et qu'elle ne concerne que 1730 foyers fiscaux en France. Le grand show de l'info revient dans quelques instants avec Mohamed Bajrafil. Un peu de pub et on continue à parler de votre livre Islam de France, l'an 1. À tout de suite.
Sud Radio, le grand show de l'info.
Cyril Brioulet.
Mohamed Bajrafil est imam, linguiste et auteur d'Islam de France, l'an 1 aux éditions Plein Jour. Y a-t-il plusieurs lectures ou interprétations possibles du Coran ?
Oui, parce que comme tout texte sacré, quand on y accède, avec ce que j'ai appelé l'épistémé, mais qui est une formule bien connue chez Foucault notamment, et qui en fait veut tout simplement dire que quand on accède à quelque chose, à un texte sacré en l'occurrence, on y accède avec une certaine façon de voir le monde qui est déjà en nous et par laquelle nous allons voir ou comprendre le texte qui nous est offert ou qui nous est donné. Donc qu'on le veuille ou non, et c'est inscrit même dans les gènes, si je puis m'exprimer ainsi, du Coran et des traditions prophétiques, quand on accède à la parole sacrée, on y accède tout en se disant que je n'aurai qu'une interprétation, parce qu'en fait la parole divine, elle est si immense que personne ne peut dire en avoir compris de manière exhaustive le sens.
Mais quand vous dites qu'il faut lire le Coran avec des yeux de 2015, ça veut dire quoi ?
Ben, tout simplement parce qu'il y a une règle très vieille chez ce qu'on appelle les principologistes dans le vocabulaire des sciences islamiques, qui dit que la fatwa, donc l'avis juridique émis, change essentiellement selon les facteurs suivants: selon la personne, selon le temps, selon le lieu, selon l'état de la personne. Donc ce qui était, pour vous donner un exemple trivial, interdit à un moment donné, ou qui était compris comme tel à un moment donné, cesse de le devenir lorsque des données nouvelles nous permettent de voir que ce vers quoi on était parti au départ n'était tout simplement pas la bonne direction. Donc, voilà.
En Arabie Saoudite, Mohamed Bajrafil, un garçon de 21 ans doit être exécuté, décapité pour avoir manifesté contre les autorités. Ils ont la même religion que vous, ces gens-là?
Oui, ils ont, il partage un certain nombre de points où je partage un certain nombre de choses avec les Saoudiens en termes de foi. Quand je prie, je me dirige en direction de la Mecque comme ils le font. Ceci dit, là, on est pas du tout dans ce domaine, on est plutôt dans un domaine que j'essaye aussi d'expliquer dans le livre, c'est quand on utilise la religion pour asseoir, si je puis dire, pour avoir une assise politique. Et cela, depuis la nuit des temps, l'homme y a recours. Lorsque, par exemple, on a besoin de se faire respecter ou de faire asseoir une autorité quelconque, on fait souvent appel à un argument d'autorité qui est de nature religieux.
C'est une mauvaise interprétation du Coran, c'est ça ?
Au-delà de cela, c'est que quand, par exemple, on lit dans le Coran, justement, parce que c'est un terme très technique dans le vocabulaire de la juridiction musulmane, qui s'appelle le terme les rebelles. Il y a eu une divergence là-dessus d'interprétation, encore une fois, chez les Shafi'ites, l'école juridique à laquelle, par exemple, j'ai été formé. On te dit que Dieu en parle dans le Coran. Il parle de cette opposition, j'ai envie de dire humaine, qui peut naître entre deux factions qui se disputent le pouvoir, et si celle qui est au pouvoir se sent menacée par une qui lui est rebelle, on en vient à une bataille, ou plutôt à des oppositions quelconques, la faction rebelle n'est pas considérée comme une faction non musulmane, ou en tout cas comme une faction qui est hérétique, ce que ne disent pas les autres écoles juridiques, qui considèrent au contraire que c'est quelque chose de mauvais. Donc là, on touche vraiment au mélange politique et religion dont j'étais en train de parler au début.
Oui, René Germain.
Alors justement, si vous le permettez, je voudrais qu'on mélange. On ne va pas mélanger, non. On va sortir un petit peu de l'islam de France pour parler d'argent. Argent et géopolitique. On vient de parler de l'Arabie Saoudite. Alors il y a quand même quelque chose d'un peu curieux entre la France, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Je veux parler des affaires des deux Mistral qu'on vient de vendre à l'Égypte avec le concours, semble-t-il, de l'Arabie Saoudite. Et puis les Rafales également, l'Arabie Saoudite n'est pas loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affaire, s'il vous plaît ?
Cette affaire, de mon point de vue, est l'illustration parfaite du fait que nous avons une compréhension des droits de l'homme qui est, de mon point de vue, à géométrie variable. Nous avons refusé de vendre ces vaisseaux à la Russie parce qu'elle faisait ce qu'elle fait en Ukraine. Et aujourd'hui, comme par magie, on vend les mêmes vaisseaux, les mêmes bateaux à un pouvoir dont le moins qu'on puisse dire et qu'il est dont on connaît les exactions, le fait qu'il ne repose pas sur des bases légitimes, mais malgré cela, comme on a envie de faire du fric, tant qu'à faire, autant le faire sur le dos des Arabes et des musulmans. C'est quelque chose de très incompréhensible et de très choquant, notamment pour un pays comme le nôtre qui se veut le chantre des droits de l'homme.
Mais financièrement, l'Arabie Saoudite est dans le coup.
Bien entendu. En fait, il faut, je pense, et c'est ce que nous disions tout à l'heure, ne pas oublier que là, on a un patchwork argent, pouvoir et religion qui se mélange. Là, pour le coup, si un pouvoir démocratique, et je ne suis pas spécialiste de ces questions pour en parler, mais je pense que c'est des choses que tout le monde plus ou moins comprend, l'Arabie Saoudite est une monarchie, ce qui est, de mon point de vue, religieusement quelque chose d'infondé, parce que comme le disait si bien Diderot, nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, la liberté est un présent du ciel et tout individu de la même espèce doit en jouir sitôt qu'il jouit de la raison. Donc dès lors que quelqu'un vient et dit voilà, moi je dois être celui dont le pouvoir doit venir et mes enfants doivent me succéder, là on est sorti complètement de cette liberté que l'islam, que le Coran propose. Et on impose, si vous voulez, cette façon de voir les choses, et toute politique voisine, par exemple les Égypte ou les pays environnants qui seraient plus ou moins considérés comme à même de montrer du doigt le fait que c'est injuste, cette façon de gérer le monde, ne peut qu'être vu d'un très mauvais œil. Et on va encourager, si je puis dire, à ce que d'autres s'en débarrassent.
Ouais. Le livre s'appelle « Islam de France, l'an 1 », c'est aux éditions Plein Jour. Merci Mohamed Bajrafil d'être venu nous voir.